le magazine des Nations Unies.
Bonjour et merci de votre fidélité au magazine des Nations Unies de ce jour dont voici le sommaire. La République démocratique du Congo a encore beaucoup de défis à relever pour assurer sa stabilité et son développement à long terme. C'est l'essentiel du message de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC au Conseil de sécurité. C'était le mardi 6 octobre dernier au cours d'une visioconférence. Journée internationale de la dépénalisation de l'avortement en RDC, la coalition de lutte contre les grossesses non désirées en a profité pour appeler le gouvernement à l'application du protocole de Maputo qu'il a ratifié, lequel protocole stipule que l'avortement devrait être légal en cas d'agression sexuelle, de viol et d'inceste, et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Enfin, le Fonds des Nations Unies pour la population reprend du service dans la province de la Tchopo. Après plusieurs années de fermeture à Kisangani, cette agence onusienne a rouvert son bureau et s'est mise tout de suite au travail en apportant son appui à deux structures sanitaires de la place. Dans cette édition, le chef du bureau des UNFPA Kisangani sera notre invité. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bienvenue à ce magazine présenté par Belinda Bosuma. Le mardi 6 octobre en cours, par visioconférence, la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, a présenté au Conseil de sécurité son dernier rapport sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo. Dans ce rapport, la représentante spéciale a appelé les 15 du Conseil de sécurité à continuer à appuyer la MONUSCO dans ses efforts pour aider le gouvernement et le peuple congolais à préserver les acquis de la stabilité et de la paix en vue de permettre à la mission une sortie progressive et responsable. D'autres détails du rapport de Leila Zerougui avec Honoré Missenga Kalala.
Les élections du 31 décembre 2018 et le transfert pacifique du pouvoir qui en a résulté ont constitué un tournant historique qui a permis d'envisager le retrait progressif de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, a indiqué la représentante spéciale lors d'une réunion avec les membres du Conseil de sécurité par visioconférence. Leila Zerougui a cependant expliqué au Conseil de sécurité que des sérieux défis demeurent encore et qu'il y a manifestement beaucoup de travail à faire pour placer la RDC sur la voie de la stabilité et du développement à long terme. Concernant la situation politique, la chef de la MONUSCO a estimé que la classe politique congolaise accepte et apprécie même les opportunités offertes par la coalition au pouvoir, mais que des tensions persistantes existent entre les membres de cette coalition. Un autre défi relevé par Leila Zerougui, c'est le risque de voir les positionnements en prévision du prochain cycle électoral 2023 devenir la priorité absolue au détriment des réformes de gouvernance et des mesures de stabilisation dont la RDC a besoin. Le régime politique actuel reste fragile et pourrait encore s'effondrer, a donc prévenu la représentante spéciale en RDC.
Changeant de chapitre, chaque année dans les pays en développement, 22 millions de grossesses non désirées aboutissent à un avortement non sécurisé et clandestin. En marge de la journée internationale de la dépénalisation de l'avortement, la coalition de lutte contre les grossesses non désirées a organisé à Kinshasa une conférence sur le thème « Oui, les femmes et les filles peuvent autogérer leur santé sexuelle et reproductive, y compris l'avortement par la télémédecine ». Reportage de Noremi Sengaka sur cette conférence.
Composée de plusieurs structures nationales et internationales dont Médecins du Monde et CAFCO, cadre de concertation permanente de la femme congolaise, Coalition de lutte contre les grossesses non désirées, CGND en sigle, a pour vision qu'aucune femme et qu'aucune fille ne meure d'un avortement en RDC. Sa mission est donc de faire le plaidoyer pour le respect des soins de santé de reproduction. Et c'est par une conférence que CGND a célébré la journée internationale de la dépénalisation de l'avortement décrétée le 28 septembre de chaque année. C'était jeudi le 8 octobre et le cadre choisi était le salon Congo de Pullman Hotel. Discours, ballet, et ce n'est que témoignage des victimes des avortements clandestins. Tout a été au rendez-vous de cette conférence pour démontrer l'ampleur des dégâts des grossesses non désirées et des avortements qui en découlent. Rose Mutombo, présidente de CAFCO.
Chaque année dans le pays en développement, ans, 22 millions de grossesses non désirées aboutissent à un avortement non sécurisé et clandestin qui provoque ainsi des infirmités temporaires ou définitives de 8 millions de femmes et le décès d'au moins 50 000 femmes. La République démocratique du Congo est parmi les pays de l'Afrique subsaharienne qui affiche un taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde, 846 pour 100 000 naissances vivantes selon l'enquête EDES 2013-2014. Parmi les principales causes de la mortalité maternelle élevée de la RDC, l'avortement à risque représente la deuxième cause après les hémorragies, soit 17%.
Pour l'instant, l'objectif de CGND est de voir le gouvernement de la RDC appliquer le protocole de Maputo portant sur le respect des droits de la santé sexuelle et reproductive, incluant l'avortement sécurisé tel qu'est repris dans l'article 14 alinéa 2 du dit protocole.
Autre nouvelle, il y a nécessité de recadrer le programme Okapi École après la rentrée scolaire 2020-2021. Ce programme a été lancé en mai dernier en partenariat avec l'UNICEF dans le but d'encadrer les écoliers pendant la période d'arrêt des cours à la suite de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République. Pour le représentant de l'UNICEF qui l'a dit cette semaine en Mbandaka, Okapi École doit être recadré pour une meilleure performance vu le succès indéniable qu'il a récolté. Édouard Begbeder est au micro de Paul Richard Malengela.
Eh bien, le programme de Capi École a été mis en place parce que justement les écoles étaient fermées. Maintenant qu'elles sont sur le point de réouvrir, je pense que j'aurai une discussion lors de mon retour à Kinshasa pour voir sous quelle forme cette émission peut continuer ou au contraire, du fait de la rentrée scolaire, de libérer ses horaires pour d'autres programmes au niveau de la radio. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, la discussion n'a pas eu lieu. Je sais qu'il y a eu une certaine satisfaction par rapport à cette radio, ce programme, et on peut le réinventer, mais il faut dans ce cas le réinventer sur quelque chose d'un peu différent. Ceci dit, il y a toujours des endroits où d'avoir ces programmes peuvent être intéressants, mais dans ce cas-là, il faut les calibrer différemment. Donc j'espère que d'ici la semaine prochaine, on pourra effectivement avoir un nouveau format ou un format différent, ou en tout cas, il faut qu'on prenne une décision.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante dans la région de Pinga au Nord Kivu. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, David Grisley, a fait ce constat lors de son séjour dans cette contrée. Suivez plutôt son entretien avec Gabriel Ouamenia.
David Grisley, vous revenez de Pinga deux semaines après les violents affrontements qui ont opposé les forces loyalistes aux combattants du NDC rénové. Quel a été l'objet de cette visite à Pinga?
On a eu en fait plusieurs objectifs. D'abord, l'objectif de voir la situation sécuritaire sur le terrain. Deuxièmement, d'écouter la population à propos de leur situation sécuritaire, humanitaire surtout, de voir de près ce que nous faisons en tant que la MONUSCO avec la force. On était là avec notre collègue civil aussi pour discuter des affaires civiles. Donc, pour moi, c'était très important de voir exactement la situation pour qu'on puisse augmenter notre appui à cette population qui doit faire face à des menaces presque tous les jours. Donc, c'était très important pour moi.
Alors, sur place, qu'est-ce que vous aviez constaté?
Ce que j'ai constaté, c'est que la situation reste très fragile. Il y a toujours beaucoup de monde qui sont déplacés dans la forêt, dans les camps de déplacés à l'hôpital, dans les maisons d'accueil des familles, des milliers. Donc pour moi, ça c'était la preuve qu'il y a encore un problème majeur sécuritaire. Deuxièmement, il me semble qu'il n'y a pas assez d'assistance humanitaire dans cette zone. Il y a vraiment aussi un besoin de désenclaver cette zone parce que c'est très difficile d'aller par la route. Il y a des ponts qui sont cassés. Il y a les routes qui sont très difficiles à traverser. Donc, et ça va freiner le développement de cette zone, ça va freiner l'augmentation de sécurité de cette zone. Donc il y a plusieurs volets à poursuivre, sécuritaire, humanitaire et développement.
Voilà. Tous les acteurs que vous avez rencontrés sur place à Pinga n'ont qu'un seul désir, la paix et la stabilité de la zone de Pinga. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer après votre retour dans cette zone?
Well, en fait, on va continuer notre engagement avec les forces de sécurité nationales, soit l'armée congolaise, mais aussi la police nationale, de voir comment on peut donner un appui pour leurs efforts sur le terrain. Il faut pas seulement une approche militaire, mais aussi une approche policière pour avoir une sécurité durable. Et je crois que ça, c'est la première chose. Aussi, c'est important, et nos collègues des affaires civiles vont travailler sur ça, c'est l'aspect de dialogue entre les communautés. Ça, c'est très important. J'étais impressionné par la volonté de vivre ensemble en paix. C'était très, très bien dit par toutes les communautés avec lesquelles on a eu l'occasion de parler. Donc, je crois qu'il y a une bonne base avec laquelle on peut travailler pour construire une paix durable. Mais il faut le retour de l'État, il faut le retour des services. On a demandé des services pour la santé, pour le retour aux écoles. Donc, il faut tout ça. Si on veut vraiment avoir une stabilité, ça va demander une continuité de sécurité dans cette zone si ça va aller à l'avant.
Comment vous répondez à la société civile locale qui souhaite la réouverture de la base de la MONUSCO à Pinga comme c'était dans les temps?
Ça, c'est quelque chose à discuter avec mes collègues de la force ici. J'ai bien entendu cette requête, donc on va en discuter ici. Mais pour l'instant, on va continuer notre appui ponctuel sur le terrain. Normalement, s'il y a une situation sérieuse comme ça qui demande qu'on envoie du personnel militaire, on peut le faire rapidement. Et on veut en fait éviter de trop engager seulement dans les sites permanents. Donc on va évaluer la nécessité d'une présence permanente.
Bon, Monsieur Grisley, vous avez rencontré les responsables des FRDC à Pinga, puis ils ont d'ailleurs déploré le fait que la MONUSCO a réduit son appui aux FRDC. Comment vous répondez à ces officiers?
Notre réponse était claire, on a reçu cette demande, on va examiner, évaluer, et ici ça conforme à nos normes, surtout sur les droits de l'homme. Je suis sûr qu'on peut trouver un appui pour eux aussi.
David Grisley, merci.
Un grand merci à vous, merci bien.
En plus bref, à l'occasion de la célébration le 5 octobre de la Journée mondiale des enseignants, l'UNESCO a appelé le gouvernement de la RDC à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des enseignants. Cette année, la journée a été placée sous le thème « Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». Et à Kinshasa, en marge de cet événement, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a organisé une table ronde en partenariat avec la MONUSCO. Autre nouvelle, la maison civile construite par la MONUSCO a été officiellement remise lundi dernier à la société civile Ville de Beni. Il s'agit d'un bâtiment de près de 80 mètres carrés, disposant d'une grande salle de réunion, des deux bureaux, d'une toilette et d'une terrasse. En remettant l'ouvrage aux bénéficiaires, le chef de bureau adjoint de la MONUSCO Grand Nord, Abdourahmane Ganda, a souligné que cela donnera un cadre meilleur à la société civile de la place pour travailler et consolider la paix et la cohabitation pacifique entre les populations de la région. Terminons cette page avec cette nouvelle du concours organisé par le groupe de communication des Nations Unies à l'occasion de la célébration des 75 ans de l'ONU. Ce concours est ouvert aux journalistes de la presse écrite, audiovisuelle et photographique et porte sur les ODD, entendez, objectifs de développement durable. Les meilleurs reportages portant sur un des 10 objectifs des ODD seront récompensés.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que Parfait Kaba, responsable de l'UNFPA Kisangani dans la Tchopo, a accordé à Radio Kapi. Entretien qui a tourné autour de la réouverture du bureau de cette agence de l'ONU dans la Tchopo après sa fermeture depuis plusieurs années. Parfait Kaba répond aux questions de Jacques Moukonkolé.
Parfait Kaba, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le responsable du bureau de l'UNFPA à Kisangani. Ce bureau a existé il y a quelques années ici à Kisangani. Il avait été fermé. Il a rouvert ses portes il y a presque une année. Qu'est-ce qui a milité à cette réouverture?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord souligner que UNFPA avait fermé physiquement le bureau à Kisangani, mais ses appuis ont continué dans la province et dans toute l'ex-province orientale. Donc, physiquement, nous n'étions plus présents ici à Kisangani, mais sur le plan des activités, les interventions continuaient toujours.
À quoi consistent les interventions de l'UNFPA ici à Kisangani?
Vous savez, UNFPA, c'est l'agence des Nations Unies spécialisé dans les questions de santé de la reproduction. En cela, UNFPA apporte un appui pour la santé maternelle et principalement la lutte contre la mortalité maternelle. UNFPA intervient aussi dans la lutte contre les violences basées sur le genre et il intervient également dans les questions de fistules obstétricales et les questions des populations dans l'ensemble, mais aussi et surtout la promotion de la jeunesse.
Il y a l'OMS et l'UNICEF, deux organismes des Nations Unies qui sont présents à Kisangani, qui interviennent aussi dans le domaine de la santé. Quelle est votre spécificité?
C'est comme je venais de le dire, la spécificité de UNFPA, ce sont les femmes. UNFPA intervient pour sauver principalement la vie des femmes et des nouveau-nés. Et en cela, UNFPA apporte un appui pour que toutes les femmes puissent accoucher dans des conditions requises, en présence du personnel qualifié et avec la qualité des services requis.
Et par rapport à la santé, il y a la COVID-19, il y a également la polio, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Quelle est la contribution de l'UNFPA dans la lutte contre ces maladies?
UNFPA, par rapport à la lutte contre la COVID-19, UNFPA intervient principalement dans la communication pour les changements de comportement et dans la prévention et le contrôle des infections. D'ailleurs, pour votre attention, je vous informe que bientôt nous allons lancer un projet de prévention des infections, de prévention et contrôle des infections dans les maternités de la province. Il y a 30 maternités qui sont ciblées où le personnel va être formé pour la prévention et le contrôle des infections, mais ces maternités recevront aussi les équipements nécessaires pour la prévention de la COVID-19.
Et par rapport à la polio?
UNFPA n'intervient pas dans la vaccination, mais UNFPA apporte quand même une assistance aux personnes vulnérables telles que les personnes vivant avec handicap. UNFPA intervient dans la résilience communautaire, dans l'autonomisation des personnes vulnérables.
Quel message pouvez-vous lancer à la population de la Chopo et de Kisangani en particulier?
En cette période difficile de COVID-19, mon premier message c'est de demander à la population de la Chopo de continuer à observer les mesures barrières édictées pour lutter contre COVID-19, mais aussi d'appeler la communauté à fréquenter les formations sanitaires quand il y a un problème pour la santé et surtout pour les femmes enceintes, de se faire consulter pendant la grossesse pour que l'évolution de la grossesse soit suivie. Et bien sûr, bien entendu, je voulais lancer aussi un message pour la protection de la femme et de la jeune fille. Vous vous basez sur les gens, sont aussi un autre aspect des problèmes auxquels la province de la Chopo fait face.
Parfait, Kaba, merci.
Je vous remercie.
Parlons du Fonds des Nations Unies pour la population, toujours à Kisangani. Notez ce reportage sur l'appui de l'UNFPA au centre de santé Shukrani de Kabondo et à l'hôpital général de Kisangani à Matisso. Retrouvons encore une fois Jacques Mukonkole.
Ces kits de matériel et équipements sont constitués notamment des lits d'accouchement, des lits d'hospitalisation, des kits d'accouchement, des tables de réanimation pour les nouveau-nés, des kits pour les sages-femmes et autres. Pour Parfait Kaba, responsable du bureau de l'UNFPA à Kisangani, cet appui est l'aboutissement du plaidoyer mené auprès de son organisation par la coordonnatrice de la Fondation Sunshine.
La Fondation Sunshine a fait le plaidoyer pour un appui auprès de l'UNFPA qui a été entendu par le management de l'organisation. Et en réponse, nous avons reçu ce kit de matériel et équipement et que nous voulons mettre à votre disposition en vue de pouvoir apporter assistance aux femmes et filles, surtout celles-là qui sont dans les urgences obstétricales.
En réaction, la coordonnatrice de cette fondation, Nicolette Nikomba, a vivement remercié l'UNFPA pour cet appui très nécessaire pour ce centre de santé.
Pour nous, une femme ne peut pas mourir en donnant la vie. Et l'appui de UNFPA aujourd'hui prouve à suffisance que UNFPA en RDC apporte un appui nécessaire à notre demande. Je ne peux que remercier UNFPA pour ses gestes louables et nobles.
Signalons qu'un appui similaire a été offert aussi à l'hôpital général de référence Makiso Kisangani la semaine dernière. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Une question a été posée à la conférence de presse des Nations Unies au porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Taobore Haïdara Mokhtar. Suivez la question ainsi que la réponse de l'officier de la force onusienne.
De la radio-télévision Kebeni. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Monsieur le porte-parole, pour savoir ce qui manque aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la MONUSCO à terme de logistique pour qu'elles puissent éradiquer complètement les défis qui posaient de la débandade.
Et merci pour cette question. Je dirais que nous sommes dans un conflit où il faut impérativement protéger les populations civiles. Et la mission de la force, c'est d'abord appuyer les forces de défense et de sécurité, à savoir les FRDC. On les soutient logistiquement sur le plan opérationnel également, en coordonnant les opérations, également par le partage de renseignements. Et donc, le souhait à nous tous, c'est de pouvoir coordonner et de continuer à implémenter, à protéger les populations pour que ces populations civiles soient au maximum protégées.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC.
Et puis, deux rendez-vous à retenir pour cette semaine. 15 octobre, journée internationale de la femme rurale. Et le 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. Voilà, c'est la fin de ce magazine préparé, coordonné et réalisé par Honoré Missenga Kalala avec l'appui de Jean-Marc Matoaki. Belinda Bosuma, c'est moi, je vous l'ai présenté avec plaisir. Merci à la technique, merci à vous d'avoir été des nôtres. Excellentes conditions d'écoute des programmes de la Radio de la Paix et bon dimanche chez vous.